Ce fut alors que je crus devoir mettre sérieusement la main au rétablissement des finances. Et la première chose que je jugeai nécessaire fut de déposer de leurs emplois les principaux officiers par qui le désordre avait été introduit. Car depuis le temps que je prenais soin de mes affaires, j'avais de jour en jour découvert de nouvelles marques de leur dissipation et principalement du surintendant. Mémoire de Louis XIV.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
En 1661, Nicolas Fouquet est au sommet de sa puissance. Né en 1615, issu d'une riche famille de drapiers angevins qui s'était peu à peu tournée vers le monde de la justice, Fouquet était entré au service de Mazarin et avait obtenu, en novembre 1650, la charge de procureur général du Parlement de Paris, poste qui en faisait l'homme du pouvoir royal à un moment où le Parlement frondait contre l'autorité de la reine-mère Anne d'Autriche et du cardinal. La fronde vaincue, Fouquet avait obtenu de la confiance de Mazarin le poste de surintendant des finances en février 1653. Habile financier, il savait à la fois répondre aux besoins de la monarchie et arrondir sa fortune, pratique courante au XVIIe siècle. Au moment où nous le rencontrons en 1661, son actif est évalué à 15 millions et 400 000 livres. Il était courant de toute manière, en ce XVIIe siècle, où la monarchie avait souvent besoin d'argent, que les hommes de finance, tout en donnant de l'argent à la couronne, se servaient également, avec souvent des dividendes. Ceci avait permis à Fouquet d'arrondir ses terres bretonnes dans les diocèses de Dole et de Saint-Brieuc. Il avait également acheté l'île de Belle-Île en 1658. Il s'était fait construire une propriété à Saint-Mandé. Et surtout, il avait fait édifier le superbe château de Vaux-le-Vicomte. À côté de ses constructions et de ses acquisitions, il avait pratiqué également une grande politique de mécénat. Il était le protecteur de La Fontaine, de Scarron, de Mademoiselle de Scudéry, de Molière, de Perrault, mais aussi de l'architecte Levaux, du peintre Lebrun, du jardinier Lenôtre. L'homme a indéniablement du goût, mais il a aussi le sens de la famille. Il sait placer en particulier ses frères. François devient archevêque de Narbonne, Louis, évêque d'Agde, Basile, chancelier de l'ordre du Saint-Esprit, Gilles, premier écuyer de la grande écurie du roi. Indéniablement, l'homme a de l'ambition, il sait plaire, mais il est aussi, il faut bien l'avouer, fidèle à la monarchie. On va bientôt l'accuser de complot contre le roi. À vrai dire, il sait s'entourer de fidèles, mais il ne souhaite pas véritablement comploter contre l'autorité royale. Le souvenir de la fronde a tellement été traumatisant pour le roi que ce n'est pas dans l'air du temps de fronder à nouveau. Qui plus est, il a une belle formule pour montrer son désir de monter en puissance. Dans un patois angevin, le Fouquet, c'est l'écureuil. Il a pris donc cet animal comme symbole de ses armoiries avec la formule suivante « Quonon ascendet, jusqu'où ne montera-t-il pas ?» Le 9 mars 1661, le cardinal Mazarin meurt. Il a été au pouvoir presque sans discontinuer depuis 1643. Il a réussi à sortir du piège de la Fronde, à avoir la confiance et l'amitié du jeune souverain, dont il est le parrain. Il a réussi, en 1648, de faire de la France l'arbitre de l'Europe au traité de Westphalie. Enfin, 2 ans avant sa mort, il avait obtenu une paix avantageuse avec l'Espagne, la paix des Pyrénées, et avait négocié le mariage de Louis avec Marie-Thérèse d'Espagne. Au moment de sa mort, il lègue au jeune roi, outre sa fortune, que le souverain va d'ailleurs prudemment refuser dans un premier temps, mais également de fidèles serviteurs. Parmi eux, Jean-Baptiste Colbert, intendant des maisons et affaires de son éminence. Jean-Baptiste Colbert est né dans la région de Reims. Il s'est plu longtemps à se présenter comme quelqu'un qui avait réussi, par sa seule force de travail, à monter l'échelle sociale depuis une famille de simples drapiers. En fait, sa famille était déjà très fortunée et il avait lui-même réussi à placer des membres de cette famille à des postes clés. Ainsi, Colbert se trouve encore dans l'ombre et il souhaite prendre la place de Fouquet. Il va donc entrer dans une logique de destruction politique du surintendant en persuadant le roi que celui-ci lui faisait défaut, que celui-ci n'était pas fidèle et que celui-ci avait usé de prévarication financière depuis bien des années. Il va expliquer au souverain qu'outre ses prévarications, le surintendant a fait fortifier Belle-Île. Est-ce que ce n'est pas un signe d'une éventuelle fronde ? D'autre part, de manière plus personnelle, le roi se rend compte que le surintendant a eu quelques avances auprès de Madame de la Vallière, qui est en fait une des maîtresses du jeune souverain. Puis le 17 août 1661, Fouquet a invité le roi au château de Vaux-le-Vicomte. La réception est superbe, extraordinaire. Le cuisinier Vatel use de toute sa science pour offrir un repas qui doit rester dans les mémoires. Tout ceci fait que le surintendant devient suspect. On ne peut pas résumer cette suspicion au seul faste de la réception à Vaux qui aurait engendré la jalousie du souverain. C'est en fait toute une série de défiances et surtout la volonté du jeune roi de montrer son autorité sur ceux qui servaient la couronne depuis plusieurs années et qui avaient cru peut-être être trop puissants. Le 5 septembre 1661, la cour s'est déplacée à Nantes, où l'on doit négocier avec les États de Bretagne les sommes d'impôts que la province donnera au roi. À la fin du conseil, le roi discute quelques minutes avec le surintendant Fouquet. Puis, celui-ci sort de la salle du conseil et Louis XIV demande à Charles d'Artagnan, le très célèbre mousquetaire, d'arrêter le surintendant à la sortie du château. C'est un coup de tonnerre dans le monde de la cour. Le surintendant tout-puissant, quelques heures auparavant, est désormais en prison. Il va être transféré à Angers, puis ensuite à Paris, où aura lieu un procès. Ce procès sera indéniablement à charge. On ira même jusqu'à confisquer les papiers personnels de Fouquet qui auraient pu éventuellement lui servir à sa défense. Néanmoins, la commission royale met du temps avant de condamner l'ancien surintendant. La procédure va durer 3 ans. Et ce n'est qu'au bout de ces 3 années que 22 juges vont proclamer la sanction. 13 d'entre eux votent le bannissement. 9 votent la mort. Ainsi, la décision de la majorité des juges est plutôt clémente, puisque finalement le surintendant, est non seulement laissé en vie, mais il évite la prison, il partira seulement du royaume. Or, le 20 décembre 1665, le roi intervient dans cette affaire et, au lieu d'utiliser un droit de grâce, accentue la peine, puisque on passe du bannissement à la prison à vie. Louis XIV a voulu montrer toute son autorité, y compris en déjouant la décision de la commission royale. Après 3 semaines de trajet, le malheureux Fouquet arrive à Pignerolles, dans les Alpes. Il va y séjourner 15 ans, jusqu'à sa mort en 1680. Nous connaissons ses états d'âme grâce à des lettres qu'il a pu envoyer en particulier à son épouse. En voici un extrait d'une lettre du 5 février 1675. Votre lettre m'a tiré d'une inquiétude plus grande que vous ne sauriez croire. J'avais passé 3 mois avec impatience à l'attendre. Elle est enfin arrivée et m'a donné autant de consolation que je suis capable d'en recevoir dans un lieu d'amertume et de douleur. Il mourra donc isolé dans cette forteresse de Pignerolles. Quant à Jean-Baptiste Colbert, celui qui avait tant œuvré pour faire chuter Fouquet, il est devenu le contrôleur général des finances, poste qu'il gardera jusqu'à sa mort en 1683.